Radio Okapi.
Mise en place de l'opération dénommée Caterpillar 2 pour riposter à toute violation du cessez-le-feu par le 123 soutenu par le Rwanda. L'annonce a été faite hier par le porte-parole de l'armée au Nord Kivu depuis la cité de Ngungu, reprise mardi par les FRDC et leurs alliés, les Wazalendo. Condamnation à mort du policier auteur du meurtre le 1er janvier à Mwenedito, province de Lomami, de deux ingénieurs chinois de l'entreprise Craig 6. Mutombo Kanyemesha, alias Méchant Méchant, a été jugé en flagrance publiquement devant l'esplanade de la mairie de la ville ferroviaire. Il a 5 jours pour interjeter appel. Le ministre provincial de l'Agriculture, Pêche et Élevage du Maniema et l'invité de ce journal, Hassani Somwe Bin Choma, va parler des efforts fournis par le gouvernement provincial pour lutter contre l'insécurité alimentaire dans cette province. Bonjour à tous et bienvenue à ce journal présenté par Noéla Luzitu Kabambi. Au Nord Kivu, les FRDC mettent en place l'opération Caterpillar 2 avec pour mission de riposter à toute violation du cessez-le-feu par le 123 soutenu par le Rwanda. Déclaration hier vendredi du porte-parole de l'armée au Nord Kivu à partir de la cité de Ngungu, reprise depuis mardi par les FRDC et leurs alliés, les Wazalendo. C'est dans le groupement Ufamundu à environ 15 km de Rubaya au nord de Masisi. Dans sa déclaration, le lieutenant-colonel Guillaume Djike Kaiko rassure la population que l'armée met tout en œuvre pour que la situation redevienne calme et repousser l'ennemi afin que les habitants retrouvent leur quiétude. On l'écoute.
Nous sommes à Ngungu, commandant Tafok Sud Kivu et le commandant Tafok Nord Kivu ont compris qu'il fallait faire une planification pour riposter aux incessantes attaques et violations du cessez-le-feu par l'ennemi. Raison pour laquelle les forces armées de la République démocratique du Congo ont récupéré Ngungu et repoussé l'ennemi, sécurisé notre population qui rentre déjà en Ngungu, comme vous venez de le constater. Et donc, l'opération Caterpillar 2, planifiée par le commandant Tafok Nord Kivu et le commandant Tafok Sud Kivu, a pour mission de riposter à toutes les violations du cessez-le-feu par l'armée rwandaise et ses multiples alliés. Ben, la population de Ngungu, c'est mettre à l'abri son armée, accompagnée par les volontaires pour la défense de la patrie, sont en train de faire tout pour que la situation redevienne calme.
Par ailleurs, une certaine accalmie est signalée ce samedi matin sur les lignes de combat à Ngungu, tout comme à Masisi Centre. D'après les sources indépendantes dans la région, les FRDC et les Wazalendo, nous l'avons dit, contrôlent toujours la cité de Ngungu, alors que l'ennemi se trouve à Rubangabanga, Mufunzi et Nyabihanga, à environ 2 à 3 kilomètres de la cité. Ces éléments du 123 soutenus par le Rwanda occupent encore Masisi Centre, tandis que l'armée et les Wazalendo sont à Kirunge et Kaniro, une dizaine de kilomètres de là, précise nos sources. Pendant ce temps, dans le territoire de Lubero, un calme précaire règne dans l'agglomération de Kitumbiro, située à plus de 60 kilomètres au sud de Lubero Centre. Selon la société civile locale contactée ce matin, depuis 3 jours, les lignes de front n'ont pas bougé où les forces armées de la République démocratique du Congo consolident leur position dans la quasi-totalité de la localité de Kitumbiro, déjà conquise. Cette même source précise qu'une panique a été observée hier vendredi à Alimbongo et Kasege, pendant que les troupes du 123 abandonnaient leur position et se dirigeaient vers Kirumba, à une trentaine de kilomètres de là. Des sources militaires dans la région confirment cette information sans plus de détails. Pendant ce temps, les activités socio-économiques reprennent timidement à Kitumbiro, où l'armée assure la protection de la population, précise notre source. Restons dans la province du Nord Kivu. L'ONG Fédération des pêcheurs individuels du lac Édouard demande l'implication du ministre congolais de pêche. C'est pour la libération d'au moins 235 moteurs hors bord appartenant aux pêcheurs congolais de Kiavinyonge et Kassindiport. Dans une correspondance adressée au ministre le 8 janvier dernier, la FECOPEIL indique que ces moteurs des pirogues de pêche sont confisqués par la force marine ougandaise de Katwe et Rwachama depuis l'année dernière. Josué Mukura, responsable de cette organisation, est ici au micro de Bernard Danyangi.
Plus de 235 monteurs de non-pêcheurs sont confisqués par la force de la marine ougandaise. Quelque chose qui plonge nos pêcheurs de Kavinyonge et de Kassindiport dans une pauvreté aiguë. Nous avons été obligés de saisir le ministre de la pêche et de l'élevage pour qu'il entre en contact avec les autorités ougandaises pour la libération de ces moteurs-là, mais aussi pour avoir une solution durable, puisque les pêcheurs sont toujours arrêtés en Ouganda. S'il y a arrêté des poissons au niveau du Congo, c'est suite à la prolifération de la pêche illicite, soutenue par les militaires de la force navale d'une part, mais d'une autre part, par la rébellion M23 à Vichumbi, et pourtant c'est la pêcherie principale qui était modèle. Alors, nous demandons à ce que le gouvernement congolais puisse voir comment stopper l'hémorragie des arrestations perpétuelles en Ouganda.
Selon la FECOPEIL, au moins 90 autres moteurs hors bord saisis par les marins ougandais dans le même lot ont été rendus moyennant 120 à 150 dollars par moteur. Et le 6 janvier dernier, 5 autres moteurs ont été saisis sur les lacs Édouard et les propriétaires congolais ont dû débourser 60 dollars par moteur pour les récupérer. Le policier Mutombo Kanyemesha, alias Mecha Méchant, auteur présumé du double meurtre de deux ingénieurs chinois de l'entreprise Crec 6 à Mweneditu, est condamné à mort. Le verdict est tombé ce vendredi à l'auditorat militaire garnison de Mweneditu, à l'issue d'une deuxième audience en flagrance tenue publiquement devant l'esplanade de la mairie de la ville ferroviaire. Le point avec Esther Ndalafina.
Deux infractions ont été retenues à sa charge. D'abord, le meurtre de deux sujets chinois qui exécutent les travaux d'asphaltage de la RN1 sur les avenues centrales et Mobutu à Mweneditu. Une autre infraction est la tentative de meurtre d'un autre sujet chinois. Au cours de son audience, Mutombo Kanyemesha, Méchant, est passé aux aveux en expliquant que son forfait est une vengeance. Les défunts ont craché sur lui lorsqu'il leur a demandé sa prime ainsi que l'autorisation d'aller passer les festivités de fin de l'année en famille. Après ce verdict, le condamné a été acheminé à la prison centrale de Mbujimayi par les autorités de la 21e région militaire. Il a donc 5 jours pour interjeter appel. Rappelons que l'agent de police Mutombo Kanyemesha, alias Méchant, a tiré à bout portant sur 3 sujets chinois le 1er janvier. 2 sont morts sur place et un troisième a été blessé grièvement. Disparu depuis cet incident, il a été retrouvé le mercredi dernier au quartier Mpinga dans la commune de Mweneditu. L'entreprise Grec 6 a suspendu les travaux conditionnant la reprise par l'arrestation suivie de la condamnation du présumé auteur du double meurtre de ses cadres. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
L'Association des épouses des policiers pour le développement AEPD devient désormais opérationnelle dans la province du Congo central. L'installation de son comité directeur a été faite hier vendredi par sa présidente nationale, Thérésia Alonga Boni, épouse du commissaire général de la police nationale congolaise qui séjourne à Matadi. Elle appelle les enfants et épouses des policiers du Congo central à adhérer à cette organisation dont l'objectif est de former les enfants et orphelins de policiers dans diverses disciplines en vogue aujourd'hui, afin de les rendre indépendants financièrement. Le point avec Nana Plurichmambo.
Au Congo central, l'Association des épouses des policiers pour le développement AEPD en sigle sera dirigée par Madame Colette Gantou, épouse du commissaire provincial de la police. Elle sera secondée par Madame Émilie Kitungwa, épouse du commissaire provincial adjoint en charge de l'administration. Selon la présidente de l'AEPD qui a installé ce comité, cette structure vise notamment la réinsertion professionnelle des dépendants des policiers en les formant en art culinaire, esthétique et coiffure, coupe et couture, alphabétisation et en informatique pour ainsi les développer et les rendre autonomes. Elle appelle donc à une adhésion massive. Thérèse Alongaboni.
Notre but est la formation des enfants des policiers qui n'ont jamais été à l'école, des filles mères, de veuves et puis des orphelins de policiers. J'appelle à toutes les épouses des policiers et nos enfants de s'adhérer dans notre association. Mettons-nous ensemble, on doit défendre le travail de nos maris parce que nous voulons voir nos maris respectés parce que nos maris font un travail noble.
Signalons que l'AEPD existe depuis 2014. Elle a son siège social au camp Lufungula dans la commune de Lingwala à Kinshasa. Au Congo central, son siège se trouve à l'état-major commandement de la police au quartier Ciné Palace à Matadi. Matadi, Nana Plurich Mambu, Radio Okapi.
Un incendie s'est déclaré hier dans le village minier de Giro, territoire de Ouattara, dans la province du Haut-Touélé. Plus de 200 maisons sont parties en fumée, laissant à des milliers de personnes sans abri. En attendant l'évaluation complète des conséquences de ce drame, la coordination de la société civile locale lance un cri de détresse aux gouvernants de cette province et aux personnes de bonne volonté afin de venir en aide aux victimes de cette catastrophe. Le point avec Jacques Moukonkolé.
L'Association nationale des victimes du Congo, section du Haut-Touélé, rapporte que cet incendie s'est déclaré vers 13h, heure locale, au village Giro. Celui-ci est situé à 40 km de la cité minière de Durba. Faute de dispositifs appropriés pour éteindre le feu, l'incendie a consumé les maisons jusqu'à 18h. Sadiki Chemukobia rapporte qu'au moins 2600 maisons sont complètement calcinées. Il indique que le feu est parti d'une maison d'un habitant de ce village pendant la manipulation du carburant. Ce bilan est contrarié par celui de la coordination de la société civile locale. Padili Kombo, son coordonnateur, avance un bilan provisoire de plus de 200 maisons. Il dit attendre la fin de l'inventaire en cours pour en donner un bilan définitif. Par rapport à l'origine du feu, il ne donne pas non plus de précision. Le feu est parti d'un voisin. On ne sait pas s'ils étaient en train de préparer ou si on avait allumé une bougie. Pendant l'enquête, on a vu que le feu qui était en train de se propager au centre-ville de Giro. Quoi qu'il en soit, les faits sont certains. Il y a eu incendie des maisons et beaucoup de biens perdus. Il faut, dit-il, penser maintenant à l'assistance des sinistrés qui ont tout perdu. À cet effet, il lance un SOS envers les autorités et les personnes de bonne volonté. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Ici à Kinshasa, première réunion hier vendredi de la commission chargée d'aider à améliorer la gouvernance de la ville-province. Cette commission comprend les membres de l'exécutif provincial, des opérateurs économiques et une délégation de l'inspection générale des finances qui est là en qualité d'observateur. Elle a un mois pour apporter des pistes de solutions pour un meilleur rendement en ce qui concerne les recettes de la ville, ses dépenses, ses créances, son patrimoine, ainsi que la maîtrise de ses effectifs. Certains contrats acquis sont en défaveur de la ville seront également revus. Israël Moutala, directeur de cabinet du gouverneur de Kinshasa, explique dans cet extrait choisi par Babel Mpongo Masimango.
C'était une réunion de prise de contact entre les membres de la commission chargée de mettre en œuvre les recommandations de l'IGF pour améliorer la gouvernance financière administrative de la ville. Comme vous le savez, il y a une mission d'accompagnement de l'IGF à la ville de Kinshasa depuis plusieurs années. Et dans le cadre de cette mission, l'IGF a formulé un certain nombre de recommandations sur le plan administratif, financier et même patrimonial pour que la gestion soit plus orthodoxe afin de permettre à la ville d'avoir les moyens de sa politique. Aujourd'hui, c'était la première réunion. Nous allons revoir un certain nombre de contrats qui ne sont pas à l'avantage de la ville pour essayer de les recadrer, d'élaguer les faiblesses qui les contiennent, afin de permettre à la ville d'avoir une trésorerie plus robuste, d'avoir des contrats plus sains. Nous précisons envers tous les partenaires de la ville qu'il ne s'agit pas d'une chasse aux sorcières, qu'il ne s'agit pas de faire table rase, mais justement d'élaguer certaines faiblesses que nous avons constatées dans les contrats jadis signés.
Toujours en ce qui concerne la capitale de la RDC, parlons de son assainissement avec cette nouvelle qui réjouit plusieurs Kinois, témoins de l'événement. C'est de voir des vrais camions poubelles commencer à vider régulièrement des sacs poubelles placés par la ville le long de certaines artères. C'est le cas sur le boulevard du 30 juin à La Gombe et le colonel Mondjiba Angalema. Babel Mpongo et Mnosa Yamasiki ont rencontré ces Kinois et ces éboueurs. Elles en parlent dans ce reportage.
On est vraiment content. Quand nous voyons les travaux pareils, on est rassuré que notre ville deviendra quand même propre.
J'apprécie cela. Ça nous aide à améliorer aussi l'environnement.
Ces réactions sont celles de plusieurs Kinois que nous avons rencontrés observant le ramassage des poubelles par une équipe d'éboueurs le long de l'avenue Mondjiba et à Kitambo Magasin. Une équipe de 7 personnes se trouve à bord de ce véhicule blanc estampillé Kinshasa Bopeto et contenant un grand bac poubelle retenu par des chaînes. À chaque arrêt, certains de ces éboueurs descendent, détachent des sacs poubelles et les mettent dans le véhicule. Ils ramassent aussi des déchets sur le sol. Mike Alomba, coordonnateur de l'ONG Parc, et responsable de l'équipe que nous avons croisée, explique.
Nous sommes Parc, Parlement citoyen, qui travaille avec la ville. Dans la zone 1, Lukunga, nous travaillons entre la gare centrale et le magasin Kitambo. Nous sommes en train de couvrir 6 équipes, pratiquement 150 personnes. Les difficultés que nous rencontrons, c'est que la population a besoin d'être enseignée sur l'assainissement et s'approprier cette initiative et soyez l'ambassadeur de l'assainissement, commençant par ta maison.
Le souhait des Kinois est que ce travail se poursuive et s'étendre sur toute la ville.
Que ça continue et que l'environnement soit propre.
Certains autres Quinois disent attendre de donner leurs avis lorsqu'ils verront cette œuvre se poursuivre dans la durée.
Actualité internationale.
L'armée soudanaise et des groupes armés alliés ont libéré Ouad Madani, la capitale de la province d'Al Jazeera, ce samedi. Déclaration du bureau du ministre soudanais de l'information dans un communiqué. L'armée avait déclaré plus tôt qu'elle avançait sur cette ville clé du centre du Soudan, qui était depuis plus d'un an sous le contrôle des paramilitaires des forces de soutien rapide.
L'invité.
L'invité de ce journal, c'est le ministre provincial de l'Agriculture, Pêche et Élevage du Maniema, Hassani Somwebin Choma, parle des efforts du gouvernement provincial dans la lutte contre l'insécurité alimentaire à laquelle cette province fait face. Pour rappel, l'Institut national de la statistique INS, dans le rapport de son enquête 2024, révèle que le taux de prévalence de l'insécurité alimentaire au Maniema est à 77%. Hassani Somwebin Choma, notre invité s'entretient avec Florence Kizalunga.
Monsieur le ministre Hassani Somwe, bonjour.
Bonjour madame Florence.
L'enquête de l'Institut national de la statistique révèle que la province du Maniema est en insécurité alimentaire. Le taux de prévalence est à 77%. Vos gouvernements provinciaux, qu'est-ce que vous faites pour renverser cette tendance?
C'est une grande interpellation pour le gouvernement provincial du Maniema par le biais du ministère provincial de l'Agriculture. Donc nous, en tant que ministre sectoriel, ce que nous devons faire, c'est de pouvoir sensibiliser la population. Quand je parle de la population, je vois les producteurs. Quand je vois les producteurs, il y a le ménage, il y a des associations, il y a des coopératives agricoles qui doivent de toutes les façons se mettre ensemble, travailler et produire pour que la population puisse avoir une alimentation équilibrée.
Travailler dans quel sens est la sensibilisation celle suffit pour combattre l'insécurité alimentaire dans la province?
Travailler tout comme sensibiliser la population ne suffit pas. Il suffit aussi d'accompagner le même ménage, les mêmes associations, les mêmes coopératives, les accompagner en intrant, en semences, dans des recyclages, dans la technique agricole, tout ça, ainsi de suite. C'est cela qui va faire en sorte que la production soit nécessairement intense au niveau de la province pour que la production soit également intense.
Est-ce que vos gouvernements, vous appuyez les agriculteurs pour ainsi espérer à ces résultats que vous pensez?
L'objectif principal de mon secteur, d'abord, c'est d'accompagner les agriculteurs. Moi, je suis un ministre qui doit de toutes les façons être à côté des agriculteurs à tout moment, quand les besoins se font sentir. Nous avons les techniciens qui sont les agronomes, qui sont juste à côté des agriculteurs pour les accompagner dans la technique de production, technique agricole, tout ça, comment cultiver, comment semer, à quelle période de consommation. Ils sont tellement accompagnés.
Avant de parler de l'accompagnement, je pense que ces agriculteurs ont besoin aussi de semences pour bien cultiver.
Quand je parlais de l'accompagnement, je parlais de l'appui. C'est dans ces cadres-là. On appuie en semences, on appuie en intrants, on leur donne tous les instruments nécessaires pour la culture, on les appui et en conseil et en encadrement technique. Et c'est ça les soucis qui animent le gouvernement provincial pour cette fois-ci.
Parmi les causes de cette insécurité alimentaire, nous avons aussi la hausse du prix des denrées alimentaires.
Effectivement, c'est lié aussi au manque des infrastructures routières. Je sais très bien que le Maniema, c'est une province à vocation agricole. Le ménage, les associations cultivent, ils produisent. Mais l'acheminement de ces produits, de la production, du lieu de la production au lieu des consommateurs, pose problème parce qu'il n'y a pas de route. C'est pour cela que le gouverneur, dans sa vision, prend donc la réhabilitation des routes, des voies de dessert agricole, tout ça comme cheval de bataille. Donc, je pense d'ici février, nous allons nous mettre au travail pour que les routes soient en tout cas praticables, effectivement.
Mais monsieur le ministre, il y a certains agriculteurs qui disent qu'ils ne sont pas vraiment accompagnés. Dans quel sens? Il y a les semences qui arrivent hors saison. Vous pensez que ça, c'est une façon d'aider les agriculteurs et vous pensez que ça peut résoudre les problèmes d'insécurité dans notre province?
La population doit également reconnaître les difficultés auxquelles la province est habitée. Là, je parle des finances. Les semences sont disponibles dans tous les territoires de la province de Maniema. Mais les moyens font défaut. Déployer les équipes à travers tous les territoires pour assurer la distribution de toutes ces semences et tout ça, bon, ça pose également un problème. C'est encore un frein. Nous sommes en train de nous battre. Nous lançons également un cri au niveau du gouvernement national par le biais du ministère de l'Agriculture de pouvoir nous appuyer de pouvoir nous donner les moyens pour que cette opération, cette activité soit effective. Les gants ont été lancés par le gouvernement central pour que les semences soient disponibles afin de les distribuer. Mais pas d'enveloppe, on va les distribuer comment? Mais cela ne peut pas faire en sorte que cela ne s'efface pas, mais nous allons faire le possible de nos moyens pour que les semences soient distribuées. Avec les petits moyens de bord, en tout cas, on va s'y mettre.
Avec cette façon de faire, monsieur le ministre, vous pensez que la population sera vraiment aidée?
Nous, en tant que gouvernement provincial, nous sommes là pour encourager la population de pouvoir faire les champs, de pouvoir produire, de cultiver diverses cultures pour quand même lutter contre l'insécurité alimentaire au niveau de la province. En attendant que le gouvernement central puisse nous appuyer financièrement. Sinon, nous ne pouvons pas croiser les bras. Ensemble avec la population, nous devons d'abord nous mettre au travail. Sinon, l'aide pourra venir après.
Monsieur le ministre Hassani Soumoué, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, madame.
Et merci à vous tous d'avoir suivi ce journal présenté par Noëlla Luzitu Kabambi. Dieudonné Nyangasa en a assuré la mise en ordre, le tout dans une coordination de Jacques-Yves Molima et sous la supervision de Jude Mister Bilanda. Restez à l'écoute des autres programmes de Radio Okapi.